RFI Midi, toute l'actualité, Jean-Baptiste Marot.
On va revenir à présent sur ce qu'il s'est passé hier à Hong Kong. On en parlait dans le journal. Pour la première fois depuis le début de la contestation contre le projet de loi sur les extraditions vers la Chine, des manifestants ont réussi à pénétrer dans le parlement local qu'ils ont occupé et saccagé pendant plusieurs heures avant d'en être chassés. Alors, pour parler de ce qui se passe à Hong Kong, nous sommes avec Emmanuel Linco. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris, spécialiste de la Chine contemporaine et auteur de l'ouvrage « Chine, une nouvelle puissance culturelle ?» paru chez MKF Éditions. Emmanuel Linco, on le disait, c'est un nouveau stade dans la contestation, une nouvelle gradation, cette invasion du Parlement local de Hong Kong qui a été franchie hier. Est-ce qu'on peut dire que ces événements, c'est désormais clairement un défi lancé à l'autorité de Pékin ?
D'un point de vue du symbole, déjà la première chose que je remarque, c'est que les étudiants sont entrés dans le Parlement. Alors que si vous comparez ce qui s'était passé, toute proportion gardée, en mai 1989, au moment des événements de Tiananmen, les étudiants, symboliquement et par respect confucéen, pour aller vite, étaient restés sur le seuil, sur les escaliers même de l'Assemblée nationale populaire. Donc clairement, il y a une radicalisation que vous avez du côté de Hong Kong qui ne prévalait pas au niveau continental. Et j'y vois clairement, en tout cas, un défi par rapport au régime de Pékin, c'est évident. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même culture politique, ce n'est pas la même histoire, et que les Hongkongais donc, revendiquent à la fois une singularité et rejettent évidemment l'idée d'une extradition judiciaire des ressortissants vers la Chine continentale. Et clairement, j'y vois aussi un signe avant-coureur d'une rivalité systémique entre la Chine et ses marges, et en particulier la capacité pour Taïwan de se singulariser, nourri par l'expérience de contestation des Hongkongais, de se singulariser encore plus de la Chine continentale.
Alors, est-ce que également le fait que ces événements au Parlement de Hong Kong interviennent le jour du 22e anniversaire de la rétrocession de l'ancienne colonie britannique à la Chine de Pékin, ça aussi c'est très fort, non ? C'est symbolique et ce n'est peut-être pas un hasard.
C'est pas le fait du hasard, évidemment. C'est une façon de rappeler, en dépit du fait que la majorité des Hongkongais soient fiers, effectivement, de s'être débarrassés aussi de l'héritage colonial, c'est une façon claire, évidemment, de renouer avec une date événement qui, à l'époque, semblait signifier un consensus entre la population de Hong Kong et la Chine continentale, le départ définitif de la dernière puissance coloniale britannique, avec celle l'année suivante, rappelons-le néanmoins, des Portugais. Mais là, c'est encore autre chose. C'est une façon de marquer l'écart par rapport à Pékin et de dire nous ne sommes pas de la même culture politique, nous ne voulons pas être associés au régime de l'État-parti de Xi Jinping.
Alors Emmanuel Linco, pour l'instant, Pékin laisse encore les autorités locales de Hong Kong gérer la crise. Est-ce que ça peut durer longtemps ? Est-ce que la Chine, elle ne va pas avoir envie de reprendre la main à un moment donné dans cette crise ?
Je pense que c'est une course contre la montre, parce que même si les réseaux sociaux sont bloqués, même s'il y a une censure absolue côté continental par rapport à Hong Kong, les gens, évidemment, finissent par savoir ce qui se passe à Hong Kong. Les gens voyagent, par ailleurs. Les autres aéroports de la Chine ne sont pas bloqués. Donc, des étrangers, y compris des Chinois de la diaspora qui ont accès aux informations restituant donc les manifestations de Hong Kong, savent et vont transmettre. Et le risque, évidemment, pour le régime, comme dans n'importe quelle crise, c'est le phénomène de contagion.
Et d'avoir l'impression qu'on piétine son autorité, hein.
Oui, c'est ça, véritablement. J'écoutais hier mon collègue Jean-Philippe Béja qui disait avec raison que d'autres grandes villes de la Chine continentale, de Shanghai en particulier, pourraient très bien à leur tour, pour d'autres raisons, revendiquer davantage d'autonomie par rapport au pouvoir du centre. Donc le risque, évidemment, c'est un phénomène de contagion et je pense que d'ici les 48 heures prochaines, je ne douterai pas qu'il y ait une réaction d'une manière ou d'une autre de l'État parti de Pékin.
Alors, si réaction il y a, Emmanuel Linco, à quoi on peut s'attendre ? C'est une démonstration de force, une répression, une façon plus subtile de gérer la crise ? Qu'est-ce qui peut se passer ?
J'irai à la chinoise, peut-être dans un premier temps, d'envoyer des signes à d'autres communautés, celle de Taïwan en particulier, en disant ne suivez pas la même trajectoire parce que nous avons des moyens de vous intimider. Je pense que ça peut être cela. L'autre possibilité déjà pour désamorcer les choses symboliquement, ça serait de démissionner Madame Lam. Je pense que ça serait la solution qui permettrait enfin de faire comprendre par le régime de Pékin que la seule voie, c'est celle de la négociation et de toute façon renoncer à ce projet qui est un projet liberticide, c'est clair, et que rejettent justement les Hongkongais.
Parce que Carrie Lam, aujourd'hui, elle n'a plus du tout la confiance des autorités chinoises.
Je pense que, a priori, au Politburo, si vous voulez, on se pose clairement des questions sur l'autorité de Madame Lam, qui de toute façon n'a jamais eu une pleine légitimité aux yeux même de l'opinion de Hong Kong. C'est une femme qui a réellement un certain charisme, mais que l'on a souvent décrit comme une femme un peu braque, un peu conservatrice également, et clairement aux ordres de Pékin. Et je pense que si Pékin veut éviter une crise majeure, il va falloir mettre un peu d'eau dans son vin, très certainement.
Merci beaucoup Emmanuel Linco d'avoir répondu à nos questions sur RFI. Je rappelle que vous êtes professeur à l'Institut catholique de Paris et spécialiste de la Chine contemporaine, que vous avez écrit un ouvrage également qui s'intitule « Chine, une nouvelle puissance culturelle ». Point d'interrogation.